avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel+. Aujourd'hui, au sommaire, tension en Somalie à la veille de la présidentielle. Le secteur de la santé est en grève au Burkina Faso. Interview du président sénégalais Macky Sall qui réagit notamment à l'élection de Donald Trump. Les taxis camerounais font peau neuve. Le Bénin s'interroge sur les risques des réseaux sociaux, en particulier chez les jeunes. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel+. Restez avec nous. Les élections présidentielles sont prévues la semaine prochaine en Somalie, un pays en proie à de nombreuses tensions, notamment entre les deux régions du Puntland et du Galmudug, autoproclamées semi-autonomes. Ces tensions avaient éclaté en septembre à la suite d'une frappe américaine visant des islamistes Shebab. Pour comprendre la nature du conflit, Eric Manirakiza a joint à Nairobi au Kenya la chercheuse spécialisée sur la Somalie de Human Rights Watch, Laetitia Bader.
Dans le nord de Galkayo, la ville est administrée par la région du Puntland. Et dans le sud, elle est administrée par une nouvelle administration de Galmudug. Donc ça, c'est une nouvelle région qui a été créée l'année dernière lors du processus de fédéralisation de la Somalie. Ce qui se passe à Galkayo, ce n'est pas un nouveau conflit, c'est en fait des divisions entre deux des plus grands clans du pays, en fait, qui datent des décennies. C'est des divisions et c'est des problèmes qui n'ont toujours pas été réglé par les processus internationaux, etc. L'année dernière, il y avait déjà eu des confrontations meurtrières entre les milices de Galmudug et les forces et les milices du Puntland. Puntland est dans une situation administrative assez différente parce que depuis la moitié des années 90, en fait, la région du Puntland était déjà une administration autoproclamée et qui gérait sa région de façon assez différente que le reste de la Somalie. C'est quand même une région qui est beaucoup plus établie que la région de Galmudug qui a été créée l'année dernière.
Les djihadistes Shebab sont très actifs en Somalie. Est-ce qu'ils sont présents aussi dans cette région?
Deux ou trois semaines avant que le conflit a repris à Galkayo en octobre, on avait vu un attentat significatif qui a été proclamé par Al-Shabaab. Même s'ils n'ont pas contrôle du territoire à Galkayo, ils ont une présence importante des deux côtés, aussi dans le Galmudug.
Et dans la Somaliland, c'est calme là-bas ?
Somaliland est quand même une région qui s'est proclamée indépendante, mais dont l'indépendance n'est pas reconnue par la communauté internationale. Là, il y a un contexte assez différent. Depuis les années 90, en fait, il y a eu tout un processus de réconciliation dans le Somaliland qui a créé un État qui travaille plus ou moins bien, une administration, il y a eu des élections. Une région qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus sûre que beaucoup des autres régions de la Somalie.
Les hôpitaux du pays sont quasiment paralysés depuis mardi par une grève du Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, le plus puissant syndicat du personnel de santé du Burkina, pour exiger des augmentations de salaire et des indemnités. Ce qui provoque un malaise dans la société burkinabé, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Issa Napon.
Nous sommes à l'hôpital Yelagadougou-Draougo, le plus grand du pays. Karim Sawadougou a accompagné sa femme qui attend encore des soins après une césarienne subie la nuit dernière.
J'ai amené ma femme pour un problème de grossesse. Non, mais ça s'est passé pour intervention. Donc, ils ont fait ça hier soir à 15h. Depuis hier soir à 15h, quand ils ont placé la première prévision là, jusqu'à 7h, donc il n'y a plus de docteur pour venir faire les pansements.
Il ne faisait pas bon tomber malade. Les structures de santé publique avaient respecté le mot d'ordre de grève sans service minimum. Une situation qui embête un peu le responsable de la section des urgences médicales de Yalagado Ouédraogo qui s'émeut, Staffa Konaté.
C'est la seule infirmière qu'il y a là ce matin, depuis ce matin disons, sur quatre. J'avoue que ce n'est pas facile. Il y a eu des stagiaires qui l'ont soutenu. Et aussi, ils ont leurs heures de détente. On n'a pas tenu à les garder. Ils sont partis. Du côté du personnel de soutien, il y a une fille des salles, plus deux garçons des salles. Donc, sinon, l'équipe est composée aussi de cinq. Donc, sur les cinq, il y a trois qui sont là.
Pendant ce temps, dans la rue, la colère ne cesse de monter.
Moi, vraiment, je ne suis pas d'accord. Parce que même en temps de guerre, on soigne les gens. Mais il y a une chose qu'ils doivent savoir, ce qu'ils font là, ce n'est pas bien. On travaille pour négocier. On ne grève pas en négociant. Ce n'est pas possible.
Moi, en tout cas, mon avis, c'est négatif. Sincèrement, dis-le. Si moi, je pense que quelqu'un a prêté serment, et il renie ce serment là aujourd'hui pour une histoire de perdième, de quoi, de l'argent, de quoi, quoi. Vraiment, ça ne va pas, quoi. Et c'est déplorable pour des intellectuels.
Pour le ministre de la Santé, sorti en tournée pour constater la réalité, une rapide paix des braves est nécessaire. Docteur Smaïla Ouédraogo.
Sur une plateforme de 63 points, 59 points ont fait l'objet d'accord. Il y a 4 points qui ont fait l'objet de désaccord. Alors donc, j'interpelle les uns et les autres. Donc, à savoir que nous sommes dans un secteur quand même assez particulier, que le secteur de la santé, pour que les uns et les autres puissent mettre de l'eau dans leur vin.
Ailleurs, heureusement, quelques rares centres de quartier fonctionnent à peu près mieux, comme le dispensaire du quartier Wemtenga, où nous rencontrons le responsable, Abdoulaye Tarnagda.
Nous sommes obligés justement d'organiser des services minimums pour ne serait-ce que prendre en charge les urgences, puisque nous savons que cette grève, nous la faisons, c'est à notre corps défendant.
Une première journée de grève très suivie et pour l'instant, aucun signe qui puisse inciter à l'optimisme dans une atmosphère déjà pesante dans les centres de santé publique. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. Le président Macky Sall du Sénégal fut le premier chef d'État africain à venir à Washington DC à la suite de la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Idriss Fall a profité de sa présence dans la capitale fédérale américaine pour recueillir la réaction du leader sénégalais à l'élection du milliardaire new-yorkais.
Pour ce qui concerne l'élection de M. Donald Trump, je voudrais renouveler mes félicitations pour son élection à la tête des États-Unis d'Amérique. C'est le choix souverain du peuple américain. Ce choix doit être respecté. Donc, en tant que tel, ce que je peux dire, c'est que le Sénégal, qui est un pays allié des États-Unis depuis très longtemps, souhaite poursuivre la même coopération. Et j'espère que notre politique de coopération avec les États-Unis va être maintenue dans les prochaines années.
Durant sa campagne, il a quand même tenu des propos très peu rassurants concernant les musulmans.
Oui, le monde entier a suivi la campagne de M. Trump. Cela a suscité des réactions vives qui étaient compréhensibles. Mais je crois que les paroles d'un candidat ne correspondront certainement pas aux actes d'un président. Parce que le candidat, c'est quelqu'un qui est à la recherche des suffrages, qui peut essayer de plaire à l'électorat, bon, qui essaye de faire du marketing, de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Parfois, peut-être que ça ne va pas être du tout les actes que le président va poser, parce que tout acte qu'il posera aura une conséquence immédiate et les réactions vont suivre immédiatement. Et aucun pays ne peut se permettre de se mettre au banc de la communauté internationale, fût-il les États-Unis d'Amérique. Attendons de voir. Donnons-lui quand même une présomption d'innocence et permettons qu'il s'installe et qu'il pose des actes avant que vraiment nous puissions nous apesantir davantage sur ce qu'il va faire ou ne va pas faire.
Vous êtes musulman, vous habitez une région en Afrique de l'Ouest qui subit de plus en plus des attaques terroristes. Est-ce que vous pensez que la réponse que les États de la sous-région apportent à ce moment, à ce phénomène, est suffisante pour combattre le terrorisme?
Je dois dire que les musulmans, on le constate partout dans le monde, sont les premières victimes du terrorisme. Qu'il s'agisse du Pakistan, de l'Afghanistan, de tous ces pays comme l'Irak, la Syrie, la Libye, la Tunisie. Bref, le Nigeria et aujourd'hui le Mali, plus les pays de l'Afrique de l'Ouest, les grandes victimes du terrorisme, en vérité, sont les musulmans. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter la caractérisation et la stigmatisation faite aux musulmans par rapport au terrorisme. Il faut bien que tout le monde comprenne que musulmans ne veut pas dire terroristes. Maintenant, pour en revenir aux pays africains, ils font de leur mieux pour faire face à cette menace qui a surpris. parce que les pays africains étaient dans d'autres combats, le combat pour le développement de leur pays, le combat pour maîtriser la faim et la malnutrition. Aujourd'hui, il faut rajouter de nouveaux défis sécuritaires qui coûtent extrêmement cher pour des pays africains qui aussi pendant de nombreuses années n'ont pas pu mettre leur service de sécurité et de défense à niveau parce qu'il y avait eu des politiques d'ajustement structurel qui les empêchaient de se doter de moyens militaires. Donc il faut quand même qu'on reconnaisse les efforts fournis par nos pays africains qui, bon an mal an, essayent de contenir la menace, mais ils ont besoin d'un soutien, du soutien de la communauté internationale. Quand un pays comme les États-Unis a été frappé tel qu'il l'a été le 11 septembre, ce n'est pas des pays comme les nôtres qui peuvent se targuer d'avoir des dispositifs antiterroristes qui puissent fonctionner à merveille. Mais on essaye de faire de notre mieux. Mais il est clair qu'il faut une grande solidarité internationale pour arriver à bout de ce phénomène.
Le président Macky Sall du Sénégal. Nombre de chauffeurs de taxi mettent les bouchées doubles pour réparer et repeindre leur taxi selon des instructions des autorités. Le gouvernement leur avait demandé de se doter de taxis propres et présentables. Cependant, certains chauffeurs semblent ignorer ces exigences, ce qui préoccupe tant les autorités que les chauffeurs, nous dit notre correspondant à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka.
Les chauffeurs de dernière minute se ruent dans les garages automobiles pour se mettre en conformité avec la requête du gouvernement qui les a sommés de faire peau neuve avant la CAN féminine qui commence ce samedi 19 novembre 2016. André Fouda est tollé à Milène, une localité située dans la capitale Yaoundé. Il explique que les chauffeurs se dépêchent dans ces locaux pour faire remplacer la peinture, voire la carrosserie de leur voiture pour être prêts avant les jours J.
On ne parvient même plus à recevoir tous les clients parce qu'ils sont aussi nombreux. Souvent, on travaille jusqu'à 18h, des fois 19h même. Ils refont la peinture jaune. Ils font les sièges et d'autres écrivent même partout là, CAN 2016, par-ci, par-là.
Par ailleurs, ces chauffeurs n'ont pas seulement reçu pour instruction de changer l'aspect esthétique. Ils sont également appelés à revoir leurs attitudes qui ne sont pas toujours les plus appréciées, notamment le non-respect du code général de la route, l'absence de professionnalisme, mais aussi la mauvaise tenue vestimentaire des chauffeurs et le manque de courtoisie de ces derniers. Cependant, d'autres chauffeurs donnent l'impression de ne pas se sentir concernés par ce qui leur a été demandé et boudent le vœu du gouvernement qui est celui de voir circuler des taxis propres et conformes pendant cette fête sportive. Certains usagers décrivent cette attitude.
Moi, je suis constaté que rien n'est fait pour le moment. Ils attendent la dernière minute. Le Camerounais aime bien ça, attend la dernière minute.
Ce matin, j'ai emprunté un taxi, ouvri la portière de la voiture. On est obligé de tirer une corde. Ce taxi était tellement vieux que si tu ne faisais pas attention, tu pouvais attraper du tétanos.
Les chauffeurs de taxi avaient été instruits de se mettre en condition avant la date butoir du 30 septembre 2016. Une date qui n'a pas été respectée par ces acteurs du secteur. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Plus de la moitié de la population mondiale n'utilise pas Internet en raison du coût prohibitif du haut débit, a révélé mardi un rapport de l'ONU. En Afrique, ce serait seulement 10% de la population qui utiliserait Internet selon l'Union internationale des télécommunications. Néanmoins, au Bénin, on s'interroge sur les risques inhérents aux avancées technologiques que connaît le pays, et en particulier l'usage que feraient certains jeunes des réseaux sociaux à des fins inavouées. Reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur à Dandé.
Il semble bien loin le temps où les réseaux sociaux pouvaient aider à consolider les liens et à forger le caractère, l'intelligence, la culture. Aujourd'hui au Bénin, une génération de jeunes internautes excelle dans l'art de tromper, manipuler, salir, escroquer, déformer la vérité et surtout faire des affirmations gratuites, qu'importe les conséquences.
Une bonne chose puisque ça vous donne une ouverture sur l'extérieur, le monde, le tiers du monde. Vous pouvez être au Bénin et savoir ce qui se passe en Taïwan, un peu partout. Mais l'autre côté, c'est pour tromper la vigilance. Je crois que c'est c'est mauvais, c'est pas bien.
J'utilise ça souvent pour discuter avec les amis et aussi pour avoir des informations, parce que souvent sur certaines pages Facebook ou Twitter, il y a des informations qui passent, ou bien pour lire des articles sur certaines personnes et tout. Je profite aussi des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer sur mon entreprise, parce que bon, j'ai une petite entreprise, donc je vends des produits, donc je publie les photos des produits et tout sur les réseaux sociaux.
Beaucoup, c'est toujours des selfies, c'est toujours des positions. On va même prendre des photos dans les douches pour montrer ça sur Facebook ou bien sur WhatsApp et on demande de commenter. Mais quand tu mets un sujet sensé, tu parles peut-être du VIH-SIDA, tu parles peut-être d'un sujet d'actualité qui est dans leur pays, des situations qui se passent dans le pays et que tu demandes leur avis, beaucoup ne commentent pas. Seules quelques rares personnes commentent et donnent leur avis. Je trouve ça un peu déplorable.
Pendant que certains désapprouvent la folie de la chose, d'autres pensent que les revers ne devraient pas empêcher de voir le bon côté des réseaux sociaux.
C'est difficile de contrôler, d'exercer du contrôle là-dessus. Le discours, il est libre, il est même très, très libre. Donc voilà, cela ne va pas sans conséquences. Mais voilà, il faut faire confiance aussi aux jeunes. Et puis, l'avantage du net, c'est qu'on n'est pas obligé de s'infliger un reportage qui ne nous intéresse pas. Si quelque chose ne nous intéresse pas, on peut zapper.
Je crois que les réseaux sociaux, autant ils apportent quelque chose de bien, mais l'usage que les jeunes en font, vous allez voir aujourd'hui des jeunes en train de se faire l'amour, à se filmer, à se mettre sur les réseaux sociaux. Vous allez voir aujourd'hui des choses impossibles. Les gens ne s'arrêtent plus et je pense, je ne sais pas où ça nous mène. Je me demande, je n'ai rien contre les réseaux sociaux, mais j'ai peur.
Il est important que le gouvernement puisse penser à réglementer le secteur, à battre un tant soit peu la porte qui semble être ouverte sur des dérives, aux conséquences bien fâcheuses. Modernité technologique, oui, mais y ajouter un brin de conscience et de vertu paraît bien judicieux. De Cotonou, Ginette Le Adondé pour VOA Afrique.
C'est fini pour aujourd'hui. À la production, Fred Mercaimit. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel, sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec Sekouba Diabaté et son Bandeya. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Let me love you.
quand c'est